Le monde chez nous.
Je voulais devenir le premier docteur canadien dans ma famille, puisque mon père était docteur au Nicaragua.
Le monde chez nous.
Le paradis sans les gens ne vaut pas la peine d'y mettre les pieds.
Le monde chez nous.
L'avenir du Gabon est lié à l'avenir de la femme.
Le monde chez nous, avec Céline Gagnon.
Bonjour et bienvenue à cette émission consacrée à la découverte de ceux et celles qui enrichissent la francophonie internationale de l'Ouest par leurs accents, leurs coutumes et leurs couleurs. Le monde chez nous est un voyage exploratoire et intimiste des cultures du monde qui sont présentes dans notre coin de pays. Vous l'entendrez encore aujourd'hui, les invités qui s'amènent à notre micro incarnent bien tout le dynamisme de la présence francophone dans l'Ouest. Cette semaine, parmi nos guides, Nour Enayeh, une Syrienne à Vancouver, elle va partager quelques proverbes de son pays d'origine, histoire de nous faire découvrir des facettes méconnues de sa culture. Patrick Kaina, qui est un jeune Albertain d'Edmonton et qui partage sa vie entre le Canada et le Nicaragua, pays de ses parents. Et puis Judikaël Mukumi, un Gabonais à Saskatoon, qui nous apprendra des choses fort intéressantes sur la culture gabonaise. Notre première escale aujourd'hui est à Winnipeg, où je rejoins Joanne Lucier-Demers, notre collaboratrice, car elle a rencontré pour nous un Luxembourgeois aux racines congolaises. Elle est dans nos studios là-bas pour nous le présenter. Bonjour Joanne.
Bonjour Céline.
Alors vous avez rencontré Alain Chinza pour nous. Comment s'est déroulée votre rencontre?
Alors, je suis arrivée chez eux, puis c'est dans un appartement dans le quartier qui s'appelle Southdale. C'est dans le sud de Saint-Boniface. Alain savait depuis un très jeune âge, il m'a dit dès qu'il avait 18-19 ans, qu'il voulait déménager, partir de l'Europe pour aller à l'aventure. Puis, il voulait aller au Canada. Puis là, tout à coup, il a découvert qu'il y avait des francophones hors Québec, puis ça l'a vraiment intrigué. Alors, il est venu s'installer ici à Winnipeg. Puis là, je dirais que c'est un grand ambassadeur pour notre ville et notre province. Il adore le Manitoba, même avec les hivers rigoureux qu'on a.
Ah, mais partons à la découverte donc de cet intrépide, de ce pionnier qu'est Alain Chinza. Ben, à Winnipeg, Joanne Lucier-Demers, merci beaucoup.
Merci, Céline.
Je m'appelle Alain Chinza, j'ai 39 ans. Je suis né au Grand-Duché de Luxembourg, qui est un très petit pays, un tout petit pays au centre de l'Europe. C'est très multiculturel, ça semble très, très anodin quand je dis ça, mais les gens sont liés par la langue, le luxembourgeois, qui est vraiment une langue très locale. Hein. Le luxembourgeois, c'est une langue qui est un peu un dialecte de l'allemand avec des éléments de français, et ça peut sonner comme un peu du néerlandais. Les gens qui sont nés au Luxembourg ont des origines variées. On a des Portugais, on a des Italiens, on a des Cap-Verdiens, des Congolais, des gens de Mozambique, Angola, de la Croatie, de partout. Le fait de vivre rien que dans ce milieu-là, en tant qu'enfant, ça te berce et ça te permet d'avoir tellement de langues, parce que moi, j'ai grandi avec 3-4 langues en même temps. Le Luxembourg, c'est un très, très beau pays et je vous recommande d'y aller. Si vous avez envie de passer de belles vacances, c'est un très beau pays, des gens charmants et tout. Mais forcément, qui dit petit pays, dit forcément qu'on commence à se ressentir encombré et on a besoin de sortir de son nid. Je sentais en moi que j'avais besoin de partir. En Europe, l'avantage, c'est qu'on peut se déplacer très facilement parce que les connexions sont très, très faciles entre les pays. Et puis, donc, à l'époque, je me disais, oui, je vais partir au nord de l'Europe ou je peux partir dans les pays scandinaves, je peux partir au sud, je peux partir n'importe où, dans n'importe quel pays. Mais je m'imaginais pas forcément quitter l'Europe. À l'époque, je connaissais pas le Manitoba. Je connaissais juste deux noms. Et je croyais que le Manitoba, c'était quelque part un pays imaginaire ou je sais pas. Jusqu'au jour où j'entends parler de Manitoba ou Winnipeg, et je me suis dit, bien ça c'est curieux, parce que jusqu'à présent, je ne savais pas qu'il y avait des francophones en dehors du Québec. Et je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, j'ai encore l'occasion de le faire. Et c'est comme ça que je me suis décidé à faire ma demande pour une résidence permanente. J'ai visité Winnipeg pour la première fois, je pense que c'était en 2012, ou non, en 2013. Et j'ai découvert les gens sur le moment, j'ai rencontré des gens charmants, des gens sympas. Et puis c'est comme ça que je me suis dit, écoute, essaye, vas-y, fais, ça vaut le coup, fais ta demande, prépare tes dossiers et puis voilà. Bah, il y a beaucoup de nouvelles habitudes parce que c'est vrai qu'en plus, tu viens d'un autre pays et puis tu arrives... Tu te dis, ouais, ils sont francophones, mais même leur français n'est pas le même. Donc, c'est là où je dois apprendre à comprendre. Parce que souvent, même quand je parle français, ils ont l'impression que, ouais, non, mais c'est pas comme ça qu'on dit les choses. Et puis, les jeunes aussi, je travaille beaucoup parfois avec les jeunes. Donc, quand je leur dis un boulot, ils comprennent pas. Un boulot, ah, c'est quoi? C'est ta job. C'est un job, c'est pas une job. Et puis ça, c'est trop le fun. Et puis, alors ça, c'est des anglicismes que les jeunes me font. Et puis, c'est je trouve ça marrant. Mon nom de rappeur, c'est Alpha Toshineza. C'est mon nom d'artiste. Et sous Alpha Toshineza, je fais du rap, je fais du graphisme, je fais de la musique, un peu de vidéo. Mes influences, elles viennent de la musique congolaise, forcément, parce qu'il y a aussi beaucoup de musique congolaise qu'on a écoutée à la maison. Elles viennent aussi de la musique noire américaine, Marvin Gaye, les Michael Jackson, les Diana Ross, Motown, tout ça. J'aime bien plutôt le rap qu'on appelle le rap conscient, c'est-à-dire j'aime bien que dans le rap, il y ait un message. Alors moi, j'écoute aussi du rap gospel, parce que ça existe aussi, c'est-à-dire du rap carrément d'artistes qui sont des messagers ou des chrétiens, mais qui font du rap. J'ai grandi dans le catholicisme. Alors, le Luxembourg est traditionnellement catholique, et puis mes parents aussi, donc on a grandi dans le catholicisme. Et puis, à partir de l'âge de 12 ans, mes parents ont fait le choix d'aller plutôt vers les églises évangéliques qui étaient, selon eux, mieux adaptées à leur expression. Et donc, ça joue un rôle très important, primordial dans tout ce que je fais. Et puis, quand il y a des moments de crise ou quand il y a des moments de réflexion, pour moi, le moment où je peux me retirer, c'est vraiment prendre le temps soit de sortir, soit je vais dans mon bureau et je prie, ou je médite, ou je lis un passage des Écritures. Je sais pas, même pour moi, Dieu ne s'est jamais arrêté pour moi, juste à ce que je pouvais voir à l'église. J'avais l'impression de le ressentir ou de me dire, ah, je suis sûr, Dieu, il doit avoir de l'humour, je suis sûr, il doit être plus concret que ça. Donc j'ai eu, par rapport à ça, un rapport beaucoup plus... J'ai toujours voulu avoir ce rapport plus direct et plus personnel. Notre culture aussi, moi j'ai une culture métissée, je suis luxembourgeois avec ma culture congolaise d'origine. Donc chez nous, il faut savoir que la convivialité, elle est très importante. La famille, c'est vital. Et souvent, on fait beaucoup la fête. Et quelque part, c'est quelque chose que je revois ici au Manitoba, du coup. Parce que c'est un peu cette même culture, donc on peut dire que les Manitobains, ça pourrait être aussi bien des Africains. Voilà, j'espère que je donnerai envie à d'autres de pouvoir rencontrer les Manitobains. Si vous ne connaissez pas Winnipeg, venez voir, c'est génial.
Alain Chinza est certainement un bon ambassadeur pour le Manitoba et la capitale, bien évidemment. Il éprouve également une grande passion pour la musique. Et Alain Chinza a eu la gentillesse d'interpréter un de ses textes pour le monde chez nous. Vous pourrez le découvrir dans la capsule vidéo qui se trouve sur la page web de l'émission.
Quand bien même la traversée ne durait qu'une nuit d'été, nos bras gardaient les griffes des passagers sauvages. Qui nous accompagnait le long de la traversée, le long de la traversée. Le long de la traversée. Quand bien même cette nuit d'été ne servait qu'une nouvelle échappée, la voilure garderait la trace et la morsure des femmes, des femmes qui nous accompagnaient le long de la traversée, le long de la traversée, le long de la traversée. Soleil retrouvé, nos silhouettes dominaient la mer. Il n'y avait dans nos yeux que tout ce qui périt face au doute, que tout ce qui périt face au doute qui nous accompagnait. Le long de la traversée, le long de la traversée, le long de la traversée, le long de la traversée.
Ça s'intitule La Traversée et c'est le groupe français Radio Elvis qui nous l'offre. Le magazine Les Inrocks le qualifie de groupe français le plus lettré actuellement. En 2014, le trio nous offrait cette pièce qu'on vient d'entendre et en début d'année, Radio Elvis lançait son tout premier album intitulé Les Conquêtes.
Ici Élise Guilmette à Whitehorse. Comme vous, j'écoute Le Monde chez nous sur Ici Radio-Canada Première.
Toutes les semaines, Le Monde chez nous part à la découverte des expressions dans le monde. Aujourd'hui, on met le cap sur la Syrie. Pour nous guider, j'accueille Nour et Naye. Bonjour Nour.
Bonjour.
Alors, vous êtes née en France, d'une mère française et d'un père syrien. Vous aviez 11 ans lorsque, pour réaliser le rêve de votre papa, votre famille s'installe en Syrie. Vous y resterez jusqu'au début de l'âge adulte. Et puis, finalement, votre parcours va vous mener au Québec et puis, finalement, à Vancouver. Est-ce qu'il vous a fallu fouiller votre mémoire pour retrouver les expressions, les proverbes que vous avez choisi de nous présenter aujourd'hui?
Ben, pas vraiment, parce que ces proverbes, ça représente vraiment la culture syrienne, surtout les gens à Damas, dont moi je suis originaire. Et les nouveaux Syriens qui sont arrivés à Vancouver m'ont vraiment rappelé ces valeurs. Et donc, quand j'ai vu ces proverbes, je me suis dit, OK, ça c'est exactement ce qu'il faut que je présente.
Alors, on va débuter avec un proverbe qui d'emblée donne le ton de la culture syrienne, je pense.
Mm-hmm. Le premier proverbe, c'est « Jannebelanas mobtendas », ce qui veut dire « le paradis sans les gens ne vaut pas la peine d'y mettre les pieds ». Donc ça reflète vraiment la nature sociale des Syriens. Il faut qu'ils soient toujours entourés de gens, de voisins, de famille, d'amis. Même quand on va en rendez-vous romantique, il y a toujours d'autres couples avec nous. C'est toujours comme ça.
Alors, les Syriens sont un peuple très social et passionné,
oui.
Diriez-vous?
Oui, très passionné. Comme je vous dis, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un avec eux. On parle fort, on parle beaucoup.
On parle avec les mères.
On parle avec les mains, avec le corps. Oui.
On va rester dans la thématique sociale. Cette fois, il s'agit de l'hospitalité syrienne.
Oui. Alors, le deuxième proverbe, c'est l'akl ala adl mhabbe, ce qui veut dire la quantité de nourriture mangée par un invité reflète l'amitié qu'il éprouve pour son hôte. Donc ça reflète vraiment la nature généreuse et l'hospitalité des Syriens. Quand on va manger chez un Syrien, on sait qu'on va manger tout le temps. On va être forcé de manger. On garde jamais notre plat vide. Si c'est vide, ça veut dire qu'on n'a pas assez mangé et qu'on va nous remettre à manger. Et voilà.
Une bonne note mentale. Oui. Donc, si on était invité à manger, autant arriver en appétit, d'une part.
Oui.
Non seulement parce que la nourriture est délicieuse, mais aussi pour ne pas froisser nos hôtes.
Oui. Et puis, de toute façon, vous allez être offert, ils vont vous offrir à manger tout le temps. Donc, quand vous finissez de manger, il y a le thé, il y a le jus, il y a les gâteaux, du début jusqu'à la fin. Et puis, c'est comme ça.
Je passerai le mot à mon mari qui a tendance à manger très vite et à vider son assiette.
Mais s'il n'a pas faim, il faut qu'il laisse un petit peu à manger dans son assiette. Comme ça, ils comprendront que ça va.
La troisième et dernière expression est surprenante. Oui. J'avoue n'avoir vraiment pas déniché d'équivalent dans mon répertoire personnel.
Alors ça, c'est très spécifique à Damas. Et puis, le monde arabe le sait quand ils parlent à des Syriens, c'est la première chose qu'il leur dit. Alors, c'est vraiment les expressions sanglantes, comme j'appelle, les expressions d'amour sanglantes. Donc, quand on dit « t'oburni » ou bien « tutla al-abri », ça veut dire « j'espère que c'est toi qui m'enterras ». Ce qui veut dire que je t'aime tellement que je ne pourrai pas vivre un jour sans toi. Donc, j'espère que c'est moi qui mourrai avant toi.
Shakespeare n'a rien inventé. Finalement.
Non, oui, et puis ça se dit tout le temps comme ça, c'est vraiment je t'aime à la folie, à la mort, quoi.
Ah, c'est une belle façon de terminer votre passage chez nous. Merci de nous réveiller pour ce voyage des mots et des images et bonne continuité.
Merci.
Je pense à toi, mon amour. Moi qui suis loin de nos terres. J'y vais pour toi, mon amour. Pour maman et pour mes frères. Là-bas c'est une terre d'accueil. Je serai bientôt sur le seuil. Oh là-bas c'est l'Europe. Mais sur cette mer d'écueil, sous cette lune en deuil, on écope, on écope. Dis à mes aïeux et dis à ma en train de faire. Ne t'en fais pas, mon amour. Bientôt vous serez si fiers. Et même si le temps se gâte, même si le vent nous frappe, j'arriverai bientôt. Et même si les vagues tapent, la prochaine étape, c'est l'Eldorado. Je comprends. pense à toi, mon amour. Cette pensée sera la dernière.
C'est la voix bien particulière de Christophe Maé qu'on vient d'entendre, Lampedusa, qui figure sur l'album L'attrape-rêve, le quatrième et plus récent album de l'artiste français. Et en entrevue récemment, Christophe Maé confiait que Lampedusa est une chanson engagée qui raconte l'histoire d'un migrant qui pense trouver l'amour en Europe et qui va sombrer dans les eaux de la Méditerranée. Si ça vous intéresse de lire un peu plus sur l'album et sur cet entretien que Christophe Maé accordait au magazine Paris Match, on a mis le lien sur notre page web à ici.radio-canada.ca/le-monde-chez-nous. Dans notre exploration des patronymes du monde, on découvre aujourd'hui celui d'une Vancouveroise originaire de Madagascar.
Bonjour. Je m'appelle Farah Rabessou Razafnarif, j'habite à Vancouver, à North Vancouver plus précisément. Et donc mon prénom, Farah, ça vient de Madagascar, la cinquième plus grande île au monde, qui se trouve dans l'océan Indien, sud-est de l'Afrique. Phare, ça veut dire la dernière, la Benjamine au fait, donc... Nous sommes trois, j'ai une grande sœur et un grand frère et je suis la dernière, donc je m'appelle Farah. Farah, ça s'appelle F-A-R-A, donc mes parents m'ont prénommé ainsi parce qu'ils prévoyaient que j'allais être la dernière de la famille. Souvent, quand je me présente, je m'appelle Farah, les gens me posent toujours la question... Est-ce que vous êtes vraiment la dernière? Parce que souvent, il y a eu des phares qui étaient l'avant-dernière ou l'avant-avant-dernière de la famille. Donc, c'est la petite question souvent qu'on me pose quand je me présente. Et c'est un prénom, je dirais, très courant à Madagascar. Marari, marari, marari fatara. Ipiti avanti, ipiti avanti, manadaluho. Mangidi, mangidi, mangidi no mamie. Ipiti avanti, apavuho. Matiro, matiro, oho, amboluhani anye. Fameti, vati, kapuzuna, yanis, kyule falane. Kane famagaga, aha, fanayinu natafa. Areti tifui tozaru tushita na mandakisaye. Marari marari, marari fatara. Tifiti avanti manadalu. Mangidi mangide, mangidi numamye. Tifiti avanti yapavu. Matiro matiro, oho, ambolu wani yange. Fameti vadika pujuna yanis kyure falanye. Kane famagaga, aha, vana inu natafa. Areti tifu ito zari chushita na mandakisaye. Avu waini lukangi tende kufaliti ya vula na nyangu wande fangatire unawa. Aha. Ararati denimbula mami ni urabura ya wapu denimbula titula kandawo. Fani wagi siampitu kambula kamatate. Fanya nyusanu itapasura fasambate. Samalala ya na uche turu fiti ya mandalo. Fanyu turi ye saruto, saruta. Thank you.
Ça s'intitule le Marari Fatsara. C'est la très belle musique du duo Eric Manana et Jennifer. Lui, guitariste et chanteur malgache. Elle, musicienne allemande. Et c'est un véritable métissage musical exploratoire. Ils vivent ensemble une belle aventure musicale. Eric Manana qui a grandi au milieu des sons de la capitale des hauts plateaux centraux de Madagascar. Et tous les deux sont, chevauchent un peu la tradition musicale orale malgache. Le Lovatsofina, comme on l'appelle, est un style de jeu européen un peu plus classique. Mon prochain invité est originaire du Gabon. Judikael Mokoumi vit à Saskatoon. Il est spécialiste du développement durable. Il est aussi très engagé au sein de la communauté françaisoise et auprès des nouveaux immigrants. On lui doit notamment la mise sur pied de la communauté des Africains francophones de la Saskatchewan. Il est notre guide aujourd'hui pour découvrir quelques caractéristiques de la culture gabonaise. Il est dans nos studios de Saskatoon. Bonjour Judikael Mokoumi, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, tout le plaisir est pour moi.
Alors le statut privilégié de la femme gabonaise, c'est une facette déterminante de la culture.
En fait, il faut dire que dans la société gabonaise, la femme, elle est vraiment au cœur de tout ce qui se fait. Que ce soit dans les liens qui peuvent se créer entre des tribus, entre des cultures, les cultures du Nord, les cultures du Sud, que ce soit dans la vie politique ou même... dans les interactions qu'on peut avoir les pays limitrophes, elle est vraiment au cœur de tout ce qui se fait.
Alors, quand vous dites qu'elle est au cœur, de quelle façon est-ce que ce rôle crucial, central, de quelle façon est-ce que ça se manifeste?
Je vais prendre un exemple simple. J'ai amené avec moi ici mon permis de conduire gabonais. Et là-dessus, il y a le sceau. Notre sceau, le sceau du Gabon, c'est ce qu'on appelle la maternité allaitante. En fait, c'est une femme qui a la poitrine dénudée et qui est en train d'allaiter un enfant. Ça, c'est ce qu'on retrouve sur les documents officiels du Gabon. Et la symbolique à laquelle ça renvoie, c'est que le Gabon est comme cet enfant-là qui est nourri par une femme. Donc, l'avenir du Gabon est lié à l'avenir de la femme.
Et ça passe, cet avenir-là, par l'éducation, par les postes clés, les postes de décision?
Si l'on regarde, en fait, il faut prendre les choses sur deux aspects. Sur le côté traditionnel, bien évidemment, il y a une répartition des rôles. La femme est responsable de la transmission de la culture. Moi, je suis issu d'un groupe qui est matrilinéaire, c'est-à-dire que les enfants appartiennent à la mère. En cas de divorce, la question ne se pose même pas, là, c'est les enfants vont avec leur mère. C'est aussi le fait de reconnaître, parce qu'aujourd'hui, on a les tests ADN qui permettent de faire retracer la filiation, si jamais on veut vérifier. Mais dans le temps, les gens, c'était, voilà, on n'est plus sûr de sa mère, on hérite de son oncle et, en cas de problème, on part avec sa mère. L'influence de la femme dans le fonctionnement de la société, il est crucial. Parce qu'on a souvent, en arrière-plan de tout ce qui se fait dans la culture gabonaise, le respect de la dignité. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que l'homme soit totalement délaissé. Et donc, lui, généralement, il a le rôle de porte-parole. Donc ça, c'est sur le côté traditionnel. Il y a le côté politique. Alors, le Sénat est dirigé par une femme, l'Assemblée nationale est dirigée par un homme. Et le pouvoir judiciaire, au sommet de ce pouvoir-là, il y a la Cour constitutionnelle. C'est la plus haute juridiction du pays et elle est dirigée par une femme depuis sa création, depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc, c'est pour dire que rien ne se fait au Gabon sans les femmes.
Alors, le matriarcat est une facette importante de la culture gabonaise. La place accordée aussi aux aînés, c'est une autre caractéristique qui est déterminante.
Les aînés, on a pour coutume de dire, je pense que c'est Empateba qui disait qu'en Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle.
J'ai déjà entendu cette expression.
Et l'Afrique est beaucoup liée à la tradition orale. Et ça fait que l'aîné, les aînés, les anciens ont un poids important dans la sphère familiale, mais aussi dans la manière dont les choses fonctionnent au pays. Dans une famille, par exemple, plus vous prenez de l'âge, votre statut devient plus important au sein de la famille.
Et ça se manifeste comment, ça, cette importance-là, ce statut privilégié?
Le statut privilégié, c'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'il y a des réunions, les personnes qui ont voix au chapitre, ce sont les aînés. Un jeune ne peut prendre la parole en public, je précise bien en public, là, que lorsque elle lui est donnée. Il doit le respect à l'aîné. Et l'aîné, lui, ce qu'il doit au jeune, c'est l'écoute et la considération. Et lui, il a le devoir de transmettre ce qu'il sait avant que sa flamme ne s'éteigne, sachant qu'il doit veiller à ce que cette transmission se fasse. Parce que si elle ne se fait pas, c'est la famille qui se perd, parce que la famille va, le lien avec le passé va être perdu.
Terminons avec la notion de solidarité qui est une caractéristique qui dénote vraiment une valeur clé du comportement de la société gabonaise.
La solidarité, en fait, on a pour coutume de dire qu'il faut un village pour élever un enfant. Et ça, ça a tout son sens au Gabon. Si vous arrivez chez moi, dans ma famille, vous ne saurez pas qui est l'enfant de qui. Parce que tout le monde a l'air d'être frère et sœur, tout le monde a l'air d'être... issu du même père et de la même mère.
Est-ce que c'est dans le comportement que c'est le plus apparent?
Mais en fait, c'est tout simplement dans la manière d'être. Il n'y a pas un enfant qui va avoir plus d'attention qu'un autre, même s'il n'est pas votre enfant d'un point de vue filial. À partir du moment où il se trouve chez vous, il a le droit au même traitement que les autres enfants. Et en fait, quand je parle de « il faut tout un village pour élever un enfant », la notion de ce qu'on appelle Ubuntu, parce que les Gabonais, c'est des Bantous. Hein. Et la notion d'Ubuntu, en fait, elle renvoie à l'interdépendance. Et donc, le fonctionnement de la société gabonaise, il est régi par cela. On dit souvent que quand un Gabonais va à la chasse, c'est tous les Gabonais qui partagent le gibier. Vous voyez?
Oui, oui, oui.
L'enfant n'est pas la propriété de son père et de sa mère. Il appartient au village, il appartient à la communauté. Et... comment ça s'étoile dans la réalité? En fait, lorsque les gens sont heureux, il y a un mariage, il y a une naissance, là, ben c'est tout le monde qui s'implique. Sans que vous n'ayez demandé quoi que ce soit, vous allez recevoir des gens chez vous qui n'ont rien à voir avec votre père ou votre mère, qui vont venir vous donner un petit coup de main parce qu'ils savent que vous êtes fatigué, qui vont vous apporter à manger parce qu'ils savent que vous n'avez pas le temps de cuisiner. Il y a même des gens qui vont proposer de venir dormir avec vous le temps que vous soyez capable de commencer à reprendre des activités.
Eh bien, la société, la culture gabonaise, une culture matriarche, un respect des aînés et un esprit de solidarité, vous brossez un tableau très intéressant et très attachant de la culture gabonaise. Je vous remercie d'avoir pris le temps de parler avec nous aujourd'hui.
Merci.
Je m'appelle Anna-Marie à Saskatoon et tous les samedis de 10h, j'écoute Les Mondes Chenus sur ICI Radio-Canada, première.
Même s'il n'est pas né au Nicaragua comme ses parents, Patrick Caïna s'identifie beaucoup à ses racines latines. Il a grandi en Alberta, mais retourne fréquemment au Nicaragua. Il a aujourd'hui 23 ans et nous sommes curieux de connaître comment se vit ce métissage des cultures au quotidien. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Dites-moi d'abord, vous visitez régulièrement votre famille au Nicaragua. En quoi est-ce que ces allers-retours ont changé l'appréciation que vous avez du Canada?
Pour moi, la beauté de ce pays, c'est que là, on peut se sentir canadien, mais aussi on a le choix de maintenir des liens, des racines dans des pays autour du monde. Et pour moi, c'est super intéressant et important pour moi de maintenir ces liens, étant donné que j'ai tellement de familles qui vivent toujours au Nicaragua.
Est-ce que à Edmonton, on est curieux de votre vie au Nicaragua, de vos origines, de votre culture?
Oui, et c'est un sujet parfois difficile à en parler.
Pourquoi?
Parce que ça dépend de qui demande la question. Parce que surtout, si je rencontre d'autres personnes de l'Amérique latine, c'est vraiment, on crée une connexion immédiate quand on parle en espagnol. C'est la première question qu'on demanderait, c'est d'où viens-tu?
Oui.
Ou d'où vient ton accent, tes parents, oui. Quoi que ce soit. Tandis que avec toute le rhétorique dans le sud, avec Donald Trump et le gouvernement avant celui-ci que nous avons, avait parlé de old stock Canadians et tout ça. Donc ça remet en question, you know, qui est un Canadien, qui n'est pas un Canadien.
Vous vous sentez Canadien?
Oui, il y a des moments où je me sens très, très Canadien. Des fois, je me sens plus nicaraguayen. Surtout pendant les célébrations de l'indépendance du Canada et surtout quand je m'intègre et aux activités de la communauté francophone ici à Edmonton. Lorsque je me sens un peu moins canadien, c'est plutôt dans le Canada anglais, dans le sens qu'il n'y a pas ce sentiment de communauté.
Oui, alors c'est tout près plus de la communauté francophone que vous sentez une appartenance.
C'est ça, c'est vraiment la communauté francophone qui m'a acquis. Je crois que c'est aussi parce qu'il y a un lien qui est partagé entre les immigrants, qu'on connaît certains obstacles qu'il faut surmonter, on connaît certaines difficultés que ça vient avec grandissant dans un pays qui n'est pas, entre guillemets encore, nécessairement le tien. Même si c'est tout ce que tu connais. C'est vraiment intéressant d'aborder ce sujet avec des Canadiens dont leurs familles sont ici pendant des générations. Et juste avoir les différences entre les perceptions, même la culture populaire, comment on perçoit ça, c'est très, 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 très intéressant.
Quand vous allez au Nicaragua visiter votre famille, comment décrivez-vous votre vie à Edmonton?
C'est un peu une fantaisie. C'est très intéressant d'essayer de décrire qu'il y a des gratte-ciels ici à Edmonton, qu'il y a de la neige, qu'il ferait froid, qu'on a tous les quatre saisons. C'est pas pendant 4-6 mois, c'est l'époque mouillée, comme on dit en anglais, the wet season, et puis l'époque sec, donc dry season. Donc c'est super intéressant quand on invite quelques membres de notre famille à venir au Canada. La première chose qu'ils remarquent, c'est qu'ils ont besoin de manteaux. Ils ont besoin de porter attention à la météo.
Est-ce qu'il y a des habitudes de vie que vous avez au Canada, ici, qui les surprennent quand ils viennent vous visiter?
Oui, je trouve que le plus de temps que je passe ici au Canada, le plus que ces différences sont accentuées.
Comme quoi, par exemple?
Par exemple, il y a quelques habitudes sociales que j'ai apprises ici au Canada. Par exemple, comme serrer la main au lieu de donner un bec sur la joue.
Ah oui.
Et puis après ça, un câlin. Donc ici, je trouve le Canada plus, je sais pas comment dire ça en français, mais business oriented.
Un petit peu plus réservé peut-être?
Oui, réservé, absolument, absolument. Là-bas, c'est pas normal de ne pas connaître ton voisin ou ta voisine. Tandis qu'ici, j'ai vécu à Red Deer pendant 9 ans. J'ai à peine connu le nom du voisin que j'avais à côté.
Est-ce que vous avez eu un sentiment que vous aviez une responsabilité envers eux, que vous leur devez justement d'être intrigué et d'avoir du succès dans votre vie?
Ouais, il y a définitivement cette pression, que ça soit implicite ou explicite. Et surtout, la pression d'aller à l'université. Puisque pour eux, l'université, c'est, je connais pas l'expression en français, mais the great equalizer, de l'opportunité. Et pour moi, notamment, je voulais devenir le premier docteur canadien dans ma famille, puisque mon père était docteur au Nicaragua. Mais je me suis rendu compte que, entrant à l'université, que je suis pas bon à la science. et donc, j'ai plutôt changé à la science politique, puisque quand j'étais petit, mes parents étaient aussi... Il y avait des fortes opinions politiques dans notre maison. Et donc, j'ai pris inspiration de ça, à entrer dans la politique, à vouloir améliorer le monde autour de moi, la communauté d'où je viens. Et espérons qu'un jour, je me trouve sur la scène politique fédérale.
Ce que j'entends, en tout cas, c'est que j'ai l'impression que vous êtes un peu l'ambassadeur du Canada quand vous êtes au Nicaragua, puis un petit peu l'ambassadeur du Nicaragua quand vous êtes au Canada.
Exactement, exactement.
Si vous deviez vivre au Nicaragua un jour, ou dans un autre pays d'Amérique latine, quelle habitude canadienne auriez-vous envie de préserver?
Je dirais cette... habitude de travailler fort, même si c'est pas nécessairement une tâche qui me plaît. Ici au Canada, on aime bien récompenser les gens qui prennent l'initiative, qui font du travail en dehors de leurs responsabilités. Et je trouve ça, c'est quelque chose d'admirable. J'aimerais apporter plus de ça au Nicaragua si jamais je décide de vivre là-bas.
Oui, un peu un esprit d'entrepreneuriat un peu.
C'est ça.
Oui, avec toute la chaleur latine. Tout ça mélangé.
Exactement. Meilleur des deux mondes.
Oui, le meilleur des deux mondes, exactement. Ben, merci, Patrick Caïna, d'être passé à notre micro et bonne continuité à vous.
Et merci.
C'est du reggae de Guadeloupe, celle du chanteur Admiral T, de son vrai nom Christy Clark. Et oui, imaginez-vous, même nom que notre première ministre en Colombie-Britannique. Il n'a que 16 ans lorsqu'en 1997, il enregistre son tout premier titre rapide. Le succès va d'ailleurs venir rapidement en force avec son premier album Mosaïque Créole, paru en 2003. Et avec ce disque-là, il connaît un succès immédiat à la fois aux Antilles et en métropole. Et ce qui plaît particulièrement dans le répertoire d'Admiral T, ce sont ses textes qui sont marqués par les espoirs, les déceptions d'une jeunesse défavorisée, trop souvent oubliée ou ignorée, qui charment un public de plus en plus nombreux. Comme à toutes les semaines, on se fait détective pour découvrir la langue de Molière et ses régionalismes. Des francophones et des francophiles tentent leur chance pour deviner la signification d'un terme ou d'une expression francophone. Et cette semaine, on leur demande ce que signifie « manger la grenouille ».
Manger la grenouille. Avoir de l'appétit. Manger la grenouille.
Manger les grenouilles, j'adore les grenouilles.
Manger les grenouilles, ça me surprend un peu, mais ça me rappelle le français qui mange la cuisse des grenouilles. Est-ce que je suis à la bon chemin? Je ne sais pas, mais c'est tout ce que ça me dit. Mais ça doit être une expression, mais je ne la connais pas du tout. Qu'est-ce que je peux dire, hein? Avoir des problèmes, parler trop, tirer quelqu'un par la langue, à la langue. J'ai aucune idée.
Manger la grenouille, à mon avis, ça veut dire... manger ce qui reste, parce qu'on n'en veut pas nécessairement. Je ne sais pas, parce que les francophones sont reconnus pour être des mangeurs de cuisses de grenouille, alors c'est difficile à dire. J'ai jamais vu ça, je me demande de quel coin ça vient dans la francophonie canadienne.
Oh, moi, j'ai jamais mangé de la grenouille. Je connais pas le goût de la grenouille, parce que chez nous, nous n'avons pas la... Dans notre culture, on ne mange pas de grenouille. Parce que j'ai aussi peur de la grenouille quand elle est vivante. Je pense que je ne peux pas manger ça.
Alors, manger la grenouille, c'est une expression française. Et encore une fois, c'est Bernard Pivot qui me donne l'explication de cette expression savoureuse. Autrefois, les tirelires prenaient souvent la forme d'une grenouille plutôt que le petit cochon d'aujourd'hui. Alors, quand on disait manger la grenouille, ça voulait dire qu'on avait utilisé, voire même dilapidé, les économies qu'elle contenait. Alors, Bernard Pivot nous apprend qu'aujourd'hui, on utilise l'expression dans le cas d'une personne qui file avec la caisse d'un organisme ou d'une association.
Ici, Pat Binichandansing à Vancouver. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, vous écoutez Le Monde chez nous sur Ici Radio-Canada Première.
Chaque semaine, on demande à deux auditeurs de se prononcer sur une question du quotidien et aujourd'hui, on leur demande de nous dire si, avec les collègues, préfèrent-ils faire la bise, donner la collade ou offrir la poignée de main.
Je m'appelle Justine Simon, je vis à Vancouver Nord et je suis d'origine anglaise. À la question suivante, avec ses collègues, est-ce que vous préférez la bise, la collade ou la poignée de main? Je suis anglaise stéréotype, parfaite. Je préfère bien sûr la poignée de main. Même dans ma famille, on ne fait ni la bise ni la collade. Mais avec certaines amies, je ferai la collade. Parfois.
Bonjour, je m'appelle Denis Grenier. Je suis Canadien d'origine. Je viens de Val-d'Or, en Abitibi. Entre collègues, je préfère... Oh, qu'est-ce que je préfère? La bise, la collade... La poignée de main... Non, entre collègues, honnêtement, ce que je préfère, c'est la poignée de main. Parce que c'est, d'après moi, l'approche la moins risquée pour soit intimider les gens ou les rendre mal à l'aise. C'est sûr que certains de mes collègues sont aussi mes amis, donc des fois, je me laisse aller un peu. Mais la poignée de main, c'est encore ma préférence.
Autrement dit, la réserve a toujours bon goût. Et si vous êtes comme moi, de nature plutôt expressive, extrovertie, vous aurez vous aussi tendance à vous rapprocher des gens en les saluant. Parlant de rapprochement, c'est dans la cuisine d'Emmanuel Rigaud à Winnipeg que nous faisons notre dernière halte aujourd'hui. Le temps d'apprécier la recette provençale qu'elle nous présente, c'est une tradition du temps des fêtes. Un peu anachronique, me direz-vous, mais ça nous donnera le temps de nous préparer.
Moi, je viens d'un pays, ou en tout cas d'une région de pays où il ne neige pas pendant l'hiver. Je viens du sud de la France, le sud-est très exactement. Une tradition que l'on a chez nous, en Provence, de manière générale, dans toutes les villes du sud-est de la France, pendant les fêtes de Noël. C'est un peu spécial, ça s'appelle les 13 desserts. C'est-à-dire que chez nous, donc à la fin du repas, au lieu d'avoir une bûche de Noël, par exemple, on le fait aussi, là, mais on va dire que traditionnellement, on doit avoir 13 desserts sur la table. L'idée est que chaque convive partage un peu de chaque de ces 13 desserts. Et c'est très symbolique, ça vient de l'Église catholique à l'origine. Chaque dessert est représentatif de mouvements ou d'ordres religieux qu'il y a dans l'Église catholique. Et c'est la raison pour laquelle c'est rassemblé pour Noël. Il y a plusieurs familles qui vont avoir 13 desserts différents, mais il y a quand même une base commune de manière générale. Et c'est souvent des produits qu'on trouve donc chez nous dans le sud de la France. Le plus gros mets de ces 13 desserts, ça va être un pain qu'on appelle la pompe à l'huile ou la fougasse en fonction de là où on est dans nos vies respectives. C'est un dessert assez simple finalement, c'est du pain avec de la fleur d'oranger et puis un peu de sucre si je ne m'abuse, ou du miel. Ensuite, après ça, il va y avoir d'autres desserts très simples également. Ça va être par exemple 4 fruits secs, des amandes, des noix, des raisins secs, des figues aussi également. Il va ensuite y avoir des fruits frais. pour finir, plus des confiseries. Donc ça va être du nougat, c'est une espèce de pâte, le nougat, je ne sais pas s'il y en a ici, j'en suis pas sûre, qui est faite de blanc d'œuf et puis d'amandes, de miel. Et puis également des fruits confits et de la pâte de coing. Donc c'est vraiment des mets qui sont vraiment très spécifiques au sud de la France. Je pense que la plupart des choses, on aurait du mal à les trouver ici pour assembler les 13 desserts. Mais ce qui est important avant tout pour ces desserts-là, c'est d'en avoir 13. Pas un de plus, pas un de moins. On peut substituer un fruit par un autre, c'est pas le problème. Ce qui compte, c'est le nombre. Étant petite, on avait vraiment ce truc de compter les desserts, voir si nos parents ne s'étaient pas trompés.
Eh bien, c'est déjà tout pour cette semaine. Je tiens à remercier l'équipe de l'émission, Angelina Talman, la réalisatrice associée, nos collaboratrices dans l'Ouest, Joanne Lucier-Demers à Winnipeg, Pascal Bouchard-Dubé à Saskatoon, Marie-Ève Dussablon à Edmonton, Pierre Beaudoin à la réalisation des capsules vidéo, Mathias Wolfson à la technique et à la mise en onde. Le monde chez nous est une idée originale de Saïda Ouchaou. Elle est également notre collaboratrice à Vancouver. C'est Céline Gagnon qui vous parle et j'ai le plaisir de réaliser cette émission. Merci d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine.